Chapitre 3. Non, non, ce n'était pas un rêve, mais une indubitable réalité. Autrement, n'aurais-je entrepris le récit. Il était déjà tard, près de 8 heures, lorsque j'arrivai au passage, et pour gagner la pièce où l'on montrait le crocodile, je fus obligé de passer par l'escalier de service, car l'Allemand avait fermé plus tôt que de coutume. Vêtu d'une vieille redingote crasseuse, il se promenait de long en large et semblait bien plus satisfait que le matin. On le sentait rassuré. Il avait dû venir beaucoup de monde. Puis la mère fit son entrée dans le but évident de me surveiller. Elle entamait à voix basse de fréquents colloques avec son fils, lequel m'avait fort bien fait payer mes 25 kopecks, malgré que son établissement fût fermé. Cet homme poussait le goût de l'ordre jusqu'à l'excès. « Vous paierez à chaque fois que vous viendrez, me dit-il, mais, tandis que le public ordinaire paiera 1 rouble, ça ne vous coûtera que 25 kopecks, parce que vous vous montrez un bon ami de votre ami, et j'estime cela. « Vis-tu, es-tu en vie, cher et savant ami ?» m'écriai-je en m'approchant de la baignoire du crocodile dans l'espoir que mes lointaines paroles arriveraient jusqu'aux oreilles d'Ivan Malievitch et flatteraient son amour-propre. « Je suis vivant et bien portant, » me répondit-il, d'une voix étouffée qui semblait venir de sous un lit, quoique je fusse tout proche de lui. « Je suis vivant et bien portant. » Mais nous parlerons de cela plus tard. Avant tout, comment vont nos affaires ? Je feignis de n'avoir pas entendu et m'empressai de le questionner en âme compatissante. Comment se trouvait-il dans son crocodile ? Qu'y avait-il là-dedans ? M'en informer n'était qu'un devoir d'amitié et même de simple politesse. Mais il m'interrompit avec impatience et mécontentement pour me crier d'un ton de commandement qui lui était habituel. « Mais les affaires !» Sa voix grêle me parut particulièrement désagréable. Je lui rapportai, jusque dans ses moindres détails, ma conversation avec Timothée Simeonitch, tout en m'efforçant de communiquer à mon accent quelque chose d'offensé. « Mais le vieux a raison !» conclut Ivan Malievitch, avec cette brusquerie dont il s'amusait toujours vis-à-vis de moi. J'aime les gens pratiques et je puis subsister les faibles. Cependant, je reconnais volontiers que ton idée de mission n'est pas aussi absurde qu'elle le paraît. En effet, je puis faire ici des observations fort intéressantes, tant au point de vue scientifique qu'au point de vue moral. Mais cette affaire prend une tournure très inattendue. Et ce n'est plus uniquement des appointements qu'il faut se préoccuper. Écoute-moi avec attention. Es-tu assis ? Non, 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 je reste debout. Non, non, assieds-toi, importe où, puis sur le plancher, écoute-moi attentivement. Plein de colère, je saisis d'une chaise et l'appliquai sur le plancher avec fracas. Écoute, reprit-il en continuant à faire le chef. Il est venu un monde fou aujourd'hui. À 8 heures, c'est-à-dire plus tôt que de coutume, le patron a estimé la fermeture nécessaire pour pouvoir compter sa recette et prendre ses mesures pour demain, car on peut prévoir que demain, ce sera ici une vraie foire. Il est à supposer que les hommes les plus savants, les femmes du monde, les ambassadeurs, les avocats, etc. vont venir. Et ce n'est pas tout. Voici que les habitants des diverses provinces de notre vaste et si intéressant empire commencent un exode vers la capitale. Quoique caché, je veux être fort en vue. Je vais jouer un rôle de tout premier ordre. Je vais servir à l'instruction de cette foule oisive. Instruit moi-même par l'expérience, j'offrirai un exemple de grandeur d'âme et de résignation au destin. Je vais être une sorte de chèvre d'où les grandes paroles descendront sur l'humanité. Rien que les données scientifiques déjà recueillies par moi sur le monstre que j'habite sont infiniment précieuses. Voilà pourquoi, non seulement je ne regrette pas l'accident de tantôt, mais encore j'en augure la plus favorable influence sur ma carrière. Et tu ne t'ennuieras pas, lui fis-je malicieusement d'observer, car il m'avait irrité de n'employer que des pronoms personnels et de se montrer si fier. J'en étais tout dérouté. Mais pourquoi cette tête à l'évent fait-elle tant de manières? Me demandai-je en grinçant des dents. Il aurait plutôt lieu de pleurer que de s'enorgueillir. Non, je ne m'ennuierai pas, répondit sévèrement à ma question mon ami. Maintenant que j'ai eu enfin le temps, je suis tout entier aux grandes idées. Je me préoccupe du sort global de l'humanité. C'est de ce crocodile que sortiront désormais la vérité et la lumière. Il n'est pas douteux que je vais découvrir une nouvelle et personnelle théorie, de nouveaux rapports économiques et que j'aurai lieu d'en être fier. Je n'avais pu m'appliquer à ces questions jusqu'ici, par suite du peu de loisirs que me laissaient mon service et les futiles distractions mondaines. Mais je vais tout révolutionner. Je serai un nouveau Fourier. À propos, as-tu remis les 7 roubles à Timothée Semyonovitch? Oui, je les lui ai remis de ma poche, fis-je, en m'efforçant de faire passer dans ma voix toute l'importance d'un tel sacrifice. Nous ferons nos comptes, répondit-il avec arrogance. Oh, je m'attends à voir augmenter mes appointements. Car enfin, qui donc augmenterait ton sinon moi? Il semble qu'on tire grand avantage de moi en ce moment. Mais au fait, et la femme? Tu veux sans doute parler d'Elena Ivanovna. La femme, cria-t-il. Il n'y avait rien à faire avec ce diable d'homme. Humblement, mais toujours en grinçant des dents, je lui racontai comment j'avais laissé son épouse. Il ne m'écouta même pas jusqu'au bout et m'interrompit avec impatience. Bon, j'ai sur elle des vues particulières. Si je me rends célèbre ici, je veux qu'elle le soit et qu'elle le devienne là-bas. Les savants, les poètes, les philosophes, les minéralogistes de passage dans notre ville, les hommes d'État qui viendront s'entretenir avec moi le matin fréquenteront le soir son salon. Dès la semaine prochaine, il faut qu'elle commence à recevoir. Étant doublé mes appointements, ils pourvoiront. D'ailleurs, du thé et quelques domestiques, c'est tout ce qu'il faut. Inutile de nous en préoccuper davantage. Il y a longtemps que j'attendais l'occasion de faire parler de moi, mais le moyen, avec ma modeste situation, elle me grave insigniment. Voici que cette simple bouchée la crocodile a tout remis au point. On notera chacune de mes paroles. La moindre de mes expériences fera penser, on se les redira, on les imprimera. Je me ferai connaître. On finira par comprendre quelle capacité on a laissé engloutir dans ce monstre. Les uns diront, cet homme, dans un pays étranger, où on eût fait un ministre, il eût pu gouverner un royaume. Tandis que les autres se lamenteront, dire qu'on ne va pas donner de royaume à gouverner. Franchement, en quoi suis-je inférieur à un gardien-pagès ou à un je ne sais qui? Ma femme me servira de pendant. J'ai l'intelligence, elle a la beauté et le charme. C'est parce qu'elle est belle qu'elle est sa femme, diront les uns, mais les autres rectifieront. Elle est belle parce qu'elle est sa femme. Bref, il faut que dès demain, Elena Ivanovna fasse s'emplette du dictionnaire encyclopédique édité sous la direction d'André Kralevski, afin de pouvoir causer sur toutes choses. Que les grands soins de lire quotidiennement l'article de tête du messager de Pétersbourg en le comparant avec celui du cheveu. Je suppose que le propriétaire de ce crocodile ne se refusera pas à m'amener de temps en temps avec sa bête au milieu du brillant salon de ma femme où je dirai des choses fort spirituelles que j'aurai eu le loisir de préparer depuis le matin. À l'homme d'État, je communiquerai mes vues gouvernementales. Au poète, je dirai des vers. À l'égard des dames, je me montrerai amusant et galant, sans inspirer aucune inquiétude à leur mari. Mais pour tous, Je serai un grand exemple de soumission au destin et au décret de la Providence. Je ferai de ma femme une remarquable femme de lettres. Je la prônerai, je la ferai comprendre au public. Car je crois ma femme pleine des plus hautes qualités. Et si l'on considère justement André Alexandrovitch comme notre Alfred de Musset, il sera encore plus juste de la regarder comme une Eugénie Thor. J'avoue que, malgré que cette folie fût habituelle à Ivan Pavlovitch, je ne pus m'empêcher de penser qu'il avait la fièvre et qu'il délirait. On eût dit l'ordinaire Ivan Malievitch vu à travers une loupe grossissant au moins 20 fois. « Mon ami, lui demandai-je, espères-tu vivre longtemps ainsi? Dis-moi, te portes-tu bien? Comment manges-tu? Comment dors-tu? Comment respires-tu? Que diable, je suis ton ami, et tu conviendras que le cas est assez extraordinaire pour justifier ma curiosité. Oh, »« Ô curiosité bien vaine, répondit-il sentencieusement, mais que je consens à satisfaire. Tu me demandes comment je me suis arrangé dans les profondeurs de ce monstre. Bien, sache d'abord qu'à mon très grand étonnement, ce crocodile est absolument vide. Il me semble être dans un énorme sac en caoutchouc, pareil à ceux que vendent les commerçants de la rue Gorosorkaya, ainsi que ceux de la Morskaya. Si je ne me trompe, et de la perspective Wolzicielski. D'ailleurs, s'il en était autrement, réfléchis, aurais-je jamais pu y entrer. Est-il possible, m'exclamai-je avec une stupéfaction fort compréhensible. Ainsi ce crocodile est entièrement vide. Entièrement, confirma Ivan Merkelvitch avec une extrême gravité. Et il est probable que ce sont les lois même de la nature qui l'ont voulu ainsi. Le crocodile est constitué en tout et pour tout d'une gueule munie de dents très tranchantes et d'une assez longue queue. Et à l'intérieur, dans l'espace qui sépare ces deux extrémités, il ne se trouve qu'un grand vide tapissé de quelque chose d'analogue à du caoutchouc et qui doit en être. Mais les poumons, le ventre, les intestins, le foie et le cœur, interrompis-je exaspéré. Il n'y en a pas. Il n'existe rien de tout cela. Et il est probable qu'il n'en a jamais existé. Ces préjugés ne sont que la conséquence des récits fantaisistes de voyageurs égarés et légers. De même qu'on gonfle un coussin avec de l'air, de même je gonfle de ma personne la viduité de ce crocodile, qui est élastique jusqu'à la vraisemblance. Ainsi, toi, en ta qualité d'ami de ma maison, tu pourras fort bien venir prendre place auprès de moi, si tu en avais seulement la générosité. Il y a place pour toi ici. Je pense y faire venir Elena Ivanovna en cas de besoin. Du reste, cette découverte s'accorde fort bien avec les enseignements des sciences naturelles, car supposons qu'il te soit donné de créer un nouveau crocodile. Une question se dresse tout d'abord devant toi. Quelle est la principale fonction du crocodile? La réponse s'impose, engloutir des hommes. Et quelle doit être la conformation d'un crocodile pour l'adapter le mieux possible à cette besogne d'engloutissement? Réponse inévitable. Il faut qu'il ait de la place. Il faut qu'il soit vide. Or, il y a longtemps que la physique nous a appris que la nature a horreur du vide. Donc, l'intérieur du crocodile doit commencer par être vide. Mais non point demeurer ainsi. Il faut donc qu'il avale tout ce qu'il peut trouver afin de se remplir. Voici donc la seule explication plausible de cette propension des crocodiles à nous avaler. Il y a des différences de constitution entre les êtres animés. Ainsi, plus la tête d'un homme est vide et moins elle éprouve le besoin de se remplir. Mais c'est l'unique exception à la loi générale précédemment exprimée. Tout cela me semble maintenant clair comme le jour. J'ai compris tout cela de par la seule puissance de mon esprit et de ma propre expérience, en plongeant, pour ainsi dire, dans les gouffres de la nature, dans la cornue où elle élabore ses mystères en écoutant battre son pouls. Remarque que l'étymologie elle-même est d'accord avec moi, car le nom du crocodile n'exprime-t-il pas la voracité de cet animal ? Crocodile, crocodile, est un mot italien, sans doute contemporain des anciens pharaons d'Égypte, et provenant certainement du mot français croquer, soit manger, se nourrir d'eux. Oh, je me propose d'expliquer tout cela au public lors de ma prochaine conférence dans le salon d'Elena Ivanovna, quand je m'y serai fait porter avec mon bac. « Ah, mon ami, il faut te purger !» m'écriai-je malgré moi, pensant, non sans effroi, que mon ami avait la fièvre. « Mais sottise !» répondit-il d'un ton de mépris. « Est-ce commode dans mon actuelle situation ?» Mais cependant, je ne doutais pas que tu allais parler de purgation. Mais mon cher ami, mais comment te soutiens-tu donc maintenant? As-tu seulement dîné aujourd'hui? Non, mais je n'ai pas faim. Il est fort probable que je ne prendrai jamais plus de nourriture. Cela est également très compréhensible. Du moment que je remplis tout le vide intérieur de ce crocodile, je le rassasie pour toujours. On va pouvoir monter des années sans lui donner à manger. D'autre part, pendant que je rassasie, il doit me communiquer tous les sucs vitaux de son corps. C'est ainsi que les plus raffinées coquettes s'appliquent pendant la nuit des escalopes crues sur la figure, en manière de compresse, pour apparaître fraîche, souple et séduisante après le bain du matin. Je nourris le crocodile de ma personne, mais je reçois de lui ma propre nourriture. Ainsi, nous nous nourrissons mutuellement. Mais comme il est difficile, fût-ce à un crocodile, de digérer un homme comme moi, il doit ressentir quelque pesanteur dans l'estomac, qui lui fait défaut du reste. Et c'est pour ne pas l'incommoder que j'évite le plus possible de me retourner. Bon, je pourrais le faire, mais je m'en abstiens par humanité. Mais c'est là le seul inconvénient de ma position. Et au sens figuré, Timothée Semyonovitch a bien raison de m'appeler fainéant. Mais je prouverai qu'on peut transformer le sort de l'humanité, tout couché sur le côté que l'on soit, mieux qu'on ne peut atteindre un tel but que dans cette position. Ce sont les fainéants qui élaborent toutes les grandes idées, toutes les évolutions intellectuelles favorisées par nos journaux et nos revues. Voilà pourquoi l'on dit avec raison que ces publications sont des sortes de laboratoires, mais peu importe. Je vais établir de toutes pièces un système social complet, et tu ne saurais croire à quel point c'est facile. Il suffit pour cela de s'isoler dans quelque coin écarté, l'intérieur d'un crocodile, par exemple, et de fermer les yeux. Tout aussitôt, on découvre le paradis de l'humanité. Tantôt, pendant que vous étiez parti, je me suis mis à chercher des systèmes et j'en ai tout de suite trouvé trois. J'en prépare un quatrième. Il est vrai que pour cela, il faut commencer par tout renverser, mais n'est-ce pas facile quand on se trouve dans un crocodile? Bon, ce n'est pas tout. Du fond d'un crocodile, il semble qu'on voit le monde avec une grande netteté. Sans doute, ma situation présente-t-elle quelques inconvénients, encore qu'assez insignifiants. Cet intérieur de crocodile est froid et visqueux. De plus, cela sent la résine. Il me semble toujours flairer mes galoches de l'année dernière. Mais c'est là tout. On ne saurait se plaindre de rien d'autre. Ivan Matveïevitch, dis-je, voilà des miracles auxquels j'ai peine à croire. As-tu donc l'intention de ne plus dîner de toute ta vie? Mais de quelle bagatelle vas-tu donc te soucier, tête futile et oisive? Je suis là, le développer de vastes idées, et toi? Mais sache donc ces grandes idées qui sont venues illuminer la nuit où j'étais plongé, me rassasient mieux que toute nourriture. Du reste, notre excellent manager s'est préoccupé de ce point avec sa bonne mère, et ils ont décidé d'introduire chaque matin, par la gueule du crocodile, un tube recourbé au moyen duquel je pourrais aspirer mon café ou quelques potages. Le tube est commandé, mais je l'estime superflu. J'espère vivre au moins 1 000 ans, s'il est vrai que les crocodiles atteignent à cette longévité. La forme tend des mains, car je puis me tromper et confondre le crocodile avec quelque autre animal. Une seule considération m'inquiète. Comme je suis vêtu de drap et chaussé de bottes, il est bien certain que le crocodile ne peut me digérer. De plus, je suis en vie et m'oppose à une telle absorption de toutes les forces de ma volonté, car je ne veux à aucun prix subir l'ordinaire transformation des aliments. Ce serait trop humiliant pour moi. Mais le drap de mes vêtements est par malheur de fabrication russe, et je crains qu'il ne puisse résister à un séjour de 1 000 ans dans l'intérieur de cette bête. Il finirait par se désagréger, et moi, rester sans protection. Je pourrais bien en arriver à être digéré, quelque résistance que j'y oppose. Pendant toute la journée, je ne le permettrai pas, mais la nuit, dans le sommeil, alors que la volonté s'éloigne de l'homme, ne risquais-je pas ce sort humiliant d'être assimilé comme une pomme de terre, comme des beignets ou du veau? Oh, une telle pensée me met en fureur. Ne fût-ce que pour éviter de pareilles conjonctures, il faudrait changer le tarif des douanes et protéger l'importation des draps anglais, qui, plus solides que les nôtres, résisteraient plus longtemps aux forces absorbantes de la nature, lorsque celui qu'ils couvriraient aurait à pénétrer dans un crocodile. À la première occasion, je ferai part de cette vue à quelque homme d'État, en même temps qu'au lecteur de nos grands quotidiens, afin de provoquer un mouvement d'opinion. Bon, j'espère servir à bien d'autres choses. Je ne doute pas de voir accourir vers moi, chaque matin, une foule de curieux qui paieront volontiers 25 kopecks pour connaître ma pensée sur les derniers télégrammes de la veille. En amont, je trouve que l'avenir se présente à moi sous les couleurs les plus brillantes. La fièvre, mais la fièvre, me disais-je. Je poursuivis à haute voix pour mieux le pénétrer. Mais mon ami, et la liberté, qu'en fais-tu? Tu es comme en prison, et la liberté n'est-elle pas le plus grand bien de l'homme? Tu es bête, me répondit-il. Certes, les sauvages aiment l'indépendance, mais les vrais sages sont épris d'ordre, avant tout, car sans ordre. Oh, de grâce, Ivan Malievitch, tais-toi et écoute, hurla-t-il, furieux de l'interruption. Jamais je ne m'étais senti aussi fort qu'à présent. Dans mon étroit abri, je ne crains guère que la pesante critique des grands journaux et le sifflement des feuilles satiriques. J'appréhende que les gens un peu sérieux, les imbéciles, les envieux et en général les nihilistes ne se fassent une rusée de moi. Mais je prendrai mes mesures. J'attends avec impatience le jugement que l'opinion publique et surtout la presse se porteront sur moi dès demain. Tiens-toi bien au courant de cela. Bon, je t'apporterai demain un tas de journaux. Il serait prématuré d'attendre quelque chose des journaux pour demain, car les nouvelles ne paraissent guère qu'après 4 jours. Cependant, à partir d'aujourd'hui, viens chaque soir par l'entrée de service. J'ai décidé de te prendre comme secrétaire. Tu me liras les gazettes et les magazines, puis je te dicterai mes pensées et je t'indiquerai les commissions à faire. Et n'oublie pas de m'apporter chaque jour tous les télégrammes de l'Europe. Allez, en voilà assez, tu dois avoir sommeil. Rentre chez toi, ne pense pas à ce que je t'ai dit au sujet de la critique. Je ne la crains pas, car elle se trouve elle-même dans une situation assez critique. Il suffira de rester sage et vertueux pour être comme sur un piédestal. Si je ne suis pas Socrate, je serai Diogène, à moins que je ne sois les deux en même temps. Telle est ma mission future, parmi l'humanité. Ainsi parlait Ivan Matveïtch, faisant preuve d'un esprit aussi léger qu'obstiné. Il est vrai qu'il était sous l'empire de la fièvre, et pareil à ces femmes de caractère faible qui ne peuvent garder un secret. Toutes ces observations sur le crocodile me paraissaient fort sujettes à caution. Voyons, était-il possible que ce crocodile fût vide? Je parie bien que tout cela n'était que rodomontade de vaniteux et qu'il cherchait surtout à m'humilier. Je sais qu'il était malade et qu'on doit céder aux malades, mais j'avouerai franchement que je n'ai pu souffrir Ivan Malvitch. Pour toute ma vie et dès l'enfance, il me garda sous sa tutelle. Mille fois j'avais eu velléité d'en finir, mais toujours quelque chose me ramenait à lui, comme si j'eusse espéré le convaincre de je ne sais quoi et me venger enfin. Singulière amitié dont je peux dire que les 9/10 n'étaient que de la haine. Cette fois pourtant nous nous séparâmes sur une bonne impression. Votre ami est un homme des plus intelligents, me dit l'Allemand à demi-voix en me reconduisant, car il avait écourté notre conversation de bout en bout. À propos, fis-je, de peur de l'oublier, combien voudriez-vous de votre crocodile si l'on vous proposait de vous l'acheter? Ivan Malvitch, ayant entendu la question, attendit la réponse avec beaucoup d'intérêt. Il me sembla évident qu'il lui eût été fort désagréable de voir l'Allemand demander une somme insuffisante. Au moins, toussa-t-il d'une façon assez singulière. Tout d'abord, l'Allemand ne voulut rien entendre et alla même jusqu'à se fâcher. « Que personne n'ose jamais me demander de vendre mon crocodile » s'écria-t-il furieusement et plus rouge qu'une écrevisse. « Je ne veux pas me défaire de mon crocodile. » Je n'accepterai pas 1 000 000 de thalers pour ce crocodile. Il m'a rapporté aujourd'hui 130 thalers d'entrée. Il en vaudra 10 000 et jusqu'à 100 000. Ivan Malvitch en riait de plaisir. Je pris mon courage à deux mains. Avec le calme et la raison de l'homme qui remplit son devoir d'ami, je représentai à ce fol Allemand toute la fausseté de ses calculs. Pour peu qu'il ramassât 100 000 thalers par jour, il ne lui faudrait pas 4 jours pour que Pétersbourg entier eût défilé dans son établissement. Et après cela, ce serait fini. On ne sait ni qui vit ni qui meurt. Le crocodile pouvait éclater, Ivan Malvitch, tombé malade et trépassé, etc., etc. Il réfléchit, puis il me répondit: « Bon, je demanderai des gouttes au pharmacien, et votre ami ne mourra pas. »« Ah, les gouttes, fiche, c'est très bien, mais songez qu'un procès peut s'engager, et que l'épouse d'Ivan Malevitch s'avise de réclamer son époux légitime. Vous désirez vous enrichir, mais êtes-vous disposé à faire une pension à Elena Ivanovna ?»« Bon, telle n'est pas mon intention, » me répondit-il d'une voix grave et résolue. « Ah non, nous n'avons point cette intention !» ajouta la mère avec colère. « Voyons, est-ce que vous ne feriez pas mieux d'accepter maintenant une somme raisonnable et qui constituerait une certitude, au lieu d'escompter un bénéfice aléatoire ? Je tiens d'ailleurs à vous faire remarquer que je ne vous fais cette question que par pure curiosité. » L'Allemand jugea utile de consulter sa mère et l'emmena dans un coin de la loge où se trouvait une armoire renfermant le plus grand et le plus laid des singes de la collection. « Tu vas voir !» me dit Ivan Matveïtch. En ce qui me concerne, j'éprouvais une violente envie de rosser tous ces gens-là, l'Allemand, sa mère, et encore plus que les autres, cet Ivan Matveïtch, dont l'ambition illimitée m'agaçait au possible. Mais que dire de la réponse de l'astucieux Allemand? Sur l'avis de sa mère, il exigea, pour prix de son crocodile, une somme de 50 000 roubles en obligation à l'eau du dernier emprunt intérieur, une maison en pierre dans la rue Golotchkaïa, avec une pharmacie tout installée dans cette maison, plus le grade de colonel. « Mais tu vois !» s'écria triomphalement Ivan Matveïtch, « je te le disais bien. » À part sa dernière exigence, cette nomination de colonel qui est tout à fait folle. Il a parfaitement raison car il sait apprécier l'actuelle valeur de sa bête. Le point de vue économique, avant tout. Voyons, criai-je furieusement à cet Allemand, mais comment osez-vous réclamer ce grade de colonel? Quel exploit avez-vous accompli? Quel service avez-vous rendu? De quelle gloire militaire vous êtes-vous donc couvert? Est-ce que vous êtes fou? Fou, répliqua l'Allemand offensé. C'est-à-dire que je suis un homme fort sensé et que vous n'êtes que des sots. Si l'on ne mérite pas d'être nommé colonel alors qu'on peut exhiber un crocodile qui contient un conseiller de la cour tout vivant, faites-moi donc voir le russe qui pourrait vous montrer un crocodile contenant un conseiller de la cour tout vivant. Je suis un homme fort remarquable et je ne vois pas pourquoi on ne me nommerait pas colonel. Adieu donc, Ivan Malvitch, m'écriai-je, tremblant de fureur. Je m'en fus presque en courant. Une minute de plus et je n'eusse plus répondu de moi. L'extravagante ambition de ces deux imbéciles était intolérable. La fraîcheur de l'air calma quelque peu mon indignation. Enfin, ayant craché une quinzaine de fois de gauche et de droite, je hélai un fiacre, me fit conduire chez moi, me déshabillai, me jetai dans mon lit. Ce qui m'exaspérait par-dessus tout, c'était d'être devenu le secrétaire d'Ivan Manovitch. Alors, désormais, pour remplir mes devoirs d'ami véritable, il va même falloir m'abrutir tous les soirs. Oh, j'avais envie de battre quelqu'un. Et d'ailleurs, une fois ma bougie éteinte, je m'appliquais quelques coups de poing sur la tête et sur diverses parties du corps. Cela me soulagea quelque peu, et je finis par m'endormir fort profondément, car j'étais brisé. Je passais ma nuit à rêver de singes, mais vers le matin, je rêvais d'Elena Ivanovna.